En séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Le 24 novembre 2006, sous la coupole du Palais de l'Institut de France, s'est déroulée la séance publique annuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Chaque année, au mois de novembre, comme les autres académies de l'Institut de France, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres organise une séance solennelle, présidée cette année par Jacques Joannat, président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Le secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Jean Leclan, a prononcé une allocution d'accueil en l'honneur de Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, présent sous la coupole ce jour-là. À l'occasion de la célébration du centenaire des fouilles d'Angkor en mars 2003, le futur souverain, alors ambassadeur du Cambodge auprès de l'UNESCO, avait déjà été accueilli par Jean Leclan. Canal Academy vous propose d'entendre la retransmission de cette séance comme si vous y étiez. Cette année, le président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, l'helléniste Jacques Joannat, a rendu hommage aux académiciens disparus et a rendu également hommage aux nouveaux venus dans la compagnie. Il a insisté sur la volonté de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de promouvoir la recherche et a dressé le bilan des séances organisées cette année par sa compagnie. Le vice-président Bernard Potier, linguiste, hispaniste et américaniste, a ensuite proclamé le palmarès des prix 2006 de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Il a également proclamé les nouveaux archivistes paléographes. Ensuite, Azedine Bezaouche, associé étranger de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, a prononcé un discours consacré à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et la connaissance du Maghreb antique. Sa communication fut ensuite suivie d'un discours de Marc Fumaroli de l'Académie française et membre également de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, consacré au thème « L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dans la République des Lettres ». Retrouvons à la tribune le secrétaire perpétuel de l'Académie, Jean Leclan, sous la coupole.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Sire, c'est un éminent privilège dont nous mesurons tous le prix exceptionnel que la séance de rentrée de notre Académie d'inscriptions et belles-lettres soit honorée de votre auguste présence. Sur votre demande expresse, vous voici revenu cet après-midi au palais du Quai de Conti, où votre visite d'État vous avait déjà conduit mercredi matin. Cette fois, vous avez voulu participer aux travaux de notre compagnie, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Les Parisiens, ces jours derniers, ont pu suivre les étapes de votre visite d'État et mesurer ainsi l'intérêt si vif que vous attachez aux institutions et aux réalisations de notre pays. Nous savons tous comment votre vénéré père, Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk, a tenu à ce que vous meniez vos études primaires au lycée Descartes de Phnom Penh. Puis, les aléas de l'histoire vous ont conduit en Tchécoslovaquie, où après le baccalauréat, vous avez poursuivi vos études à l'Académie d'art musical de Prague, soutenant en 1975 une thèse de doctorat sur la conception et la gestion des écoles artistiques au Cambodge. Prisonnier des Khmers rouges, détenu avec vos parents de 1976 à 1979, vous êtes parti en exil en République populaire de Chine avant de gagner la France, où, à partir de 1981, vous avez été professeur de pédagogie artistique et de danse classique, successivement au Conservatoire Marius Petipa, au Conservatoire Gabriel Fauré, puis au Conservatoire Mozart de la ville de Paris. Président de l'Association Académique Khmer en France, puis directeur général de la Société Royale Khmer de Cinématographie, votre poste a été, de 1993 à 2004, celui d'ambassadeur du Cambodge auprès de l'UNESCO. C'est en cette qualité que vous aviez bien voulu alors rendre une première visite à notre Académie des inscriptions, dont je conserve très pieusement le souvenir et même la photographie. Membre 2004 du Haut Conseil de la Francophonie, vous avez été aussi nommé membre du Haut Conseil privé de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, puis, quand celui-ci a décidé de se retirer en octobre 2004, vous avez été choisi comme roi du Cambodge à l'unanimité des membres du Conseil du Trône. C'est ainsi à un francophone, à un francophile convaincu aussi, qui a longtemps séjourné en France, que j'ai l'insigne honneur de m'adresser. Il y a deux jours, mercredi matin, à l'école française d'Extrême-Orient, avenue du Président Wilson, a été dévoilé par vous-même, en présence du ministre François Goulard, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, et du professeur Franciscus Verhelen, directeur de l'école française d'Extrême-Orient, que nous avons l'avantage de compter au nombre des correspondants de notre académie, a été dévoilée une plaque constituant l'hommage de cette haute institution française de recherche. Je cite le texte de cette plaque à Sa Majesté Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, membre d'honneur de l'école française d'Extrême-Orient depuis 1947, grand donateur. Ce monument de reconnaissance exprime parfaitement les sentiments de ceux qui sont ici tous ce soir. Notre compagnie, dont la vocation essentielle est l'étude des manifestations et des témoignages si divers de la culture au cours des siècles à travers le monde, et en conséquence la défense des valeurs de l'humanisme universel, a toujours suivi, avec une attention constante, l'intérêt porté par les savants français au Cambodge, et en particulier l'œuvre accomplie en ce sens par l'EFEO, c'est-à-dire l'École française d'Extrême-Orient, depuis la création d'Indochine en 1893, d'une mission archéologique qui a reçu son statut en 1900. Dès 1921, paraissait l'inventaire descriptif des monuments du Cambodge d'Étienne Lunet de la Jonquière. C'était alors, à partir de là, des recherches systématiques. Les premiers explorateurs, Doudard de Lagré, Louis de Laporte, Étienne Émonier, puis le jeune sinologue Paul Pelliot, qui devait devenir un des membres les plus illustres de notre compagnie, reprend et commente la vieille traduction faite en 1819, déjà, par Abel Rémusa, membre de notre académie, de la relation de voyage à Angkor du chinois Shu Dagan. En 1923, est publié l'extraordinaire plan japonais d'Angkor du XVIIe siècle, conservé à la bibliothèque de Mito. Se développent les recherches des pays cramifères, où s'illustre Georges Chédès, Georges Maspero, fils de Gaston Maspero et père d'Evelyne Maspero, Poré, Jean Filioza, Claude Jacques, sur le terrain, sont dégagés de la forêt qui les recouvrait les ruines d'Angkor. À ce travail de titan sont associés les noms d'Henri Marchal, Georges Grolier, Bernard-Philippe Grolier, de Jacques Dumarsais, pour ne citer que quelques noms parmi les archéologues qui se sont attachés à la résurrection des trésors de l'architecture khmer. Je ne mentionnerai ici que les plus récents travaux, la consolidation de la terrasse du roi lépreux et du perron de la terrasse nord des éléphants au cœur d'Angkor Thom, l'étude de Kléang Sud, le vaste programme de restauration du bas-fond en cours de réalisation par Pascal Royer, à qui notre académie vient de faire remettre le grand prix de la Fondation Prince de Polignac. Tandis que la base de ce top en montagne avait été dégagée dès 1908, les travaux d'anastylose de ces trois étages, commencés en 1960, avaient été abandonnés en 1971. En février 1995, les reprises des travaux ont été inaugurées par Sa Majesté le roi-père Norodom Sihanouk et la majeure partie du travail est désormais accompli. Il faudrait encore tenir compte du sauvetage des manuscrits conservés dans les monastères, des textes sur feuilles de latanier ou de papier chinois, écrites en khmer ou en pali par l'équipe animée par Olivier de Bernon de l'EFEO. De nombreux articles scientifiques, de gros volumes devenus des classiques, constituent les témoignages mis à la portée de tous des trésors du patrimoine mondial que constituent les monuments, temples, reliefs et, je viens de dire, textes aussi du Cambodge, un énorme bilan qui associe nos deux pays, le Cambodge et la France. Notre présente séance comportera cet après-midi, tout d'abord, le discours traditionnel de M. le Président Jacques Joinat sur l'année écoulée et son riche bilan de travaux érudits, puis la lecture par M. le Président, le Vice-Président Bernard Potier du palmarès de 2006, récompensant par des prix de l'Académie les publications les plus remarquables de l'année 2006 et la proclamation des nouveaux archivistes paléographes. Puis, ce seront deux communications dont les sujets ont été choisis, le premier en fonction d'anniversaire, lecture de M. Azzeddin Béchaouche, associé de notre compagnie que Sa Majesté connaît bien, en tant que représentant de l'UNESCO dans les travaux du Cambodge, sur l'Académie des inscriptions et belles-lettres et la connaissance du Maghreb antique. La seconde lecture, en raison de l'actualité pour nous de son sujet, sera faite par M. Marc Pumarelli, membre tout à la fois de l'Académie française et de notre compagnie, sur l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans la République des lettres. En effet, résumerai très brièvement, attention de Sa Majesté, ces deux communications. En effet, en 1906, a été découverte par Jérôme Carcopino une inscription qui a constitué un des documents les plus illustres du passé de l'Afrique du Nord. C'est l'inscription d'Aïn N'Djemala. Le dimanche 3 juin 1906, au cours d'une promenade exploratoire en compagnie du cher Daïn Tunga, Jérôme Carcopino, jeune membre de l'école française de Rome, il aura seulement dans quelques jours 25 ans, découvrait dans le lit d'un torrent les restes d'un pilier portant sur ses quatre faces incomplètes une inscription latine fort bien gravée. Copiant soigneusement le long texte, Jérôme Carcopino, qui avait dès lors acquis déjà une connaissance incomparable des grands textes de l'épigraphie romaine en Afrique du Nord, devait publier, et dès l'automne suivant, découverte en juin, publication dès le mois de septembre, dans les mélanges françaises de Rome, un article en 117 pages, transcription impeccable, traduction, commentaires magistraux par la comparaison avec trois autres inscriptions du même genre, découvertes antérieurement. Il montre ainsi l'importance de l'Alex Adriana, reprenant et complétant une lex mentiana antérieure, qui accorde aux paysans libres qui viennent occuper des terres en friche un droit d'usage héréditaire. C'est la naissance de l'institution originale du colonat partiaire que le Moyen-Âge devait connaître encore. Puis, nous anticiperons de quelques mois sur l'an prochain, ce sera la célébration d'une autre découverte française très importante, celle en 1907 des trésors de Mahdia au large de la côte tunisienne. Une splendide collection de bronze, de marbres antiques qui font la gloire du musée du Bardo à Tunis. Tels sont les deux événements archéologiques qui donnent l'occasion à notre confrère Azzeddin Béchaouche de nous retracer les acquis majeurs de la contribution de notre Académie à la connaissance de l'Afrique du Nord. En raison des missions propres à notre compagnie et en fonction des savants si nombreux et brillants qui ont travaillé à faire mieux connaître le Maghreb antique, il nous retracera quelques-uns des résultats majeurs qui ont pu être obtenus au Maroc, en Algérie, en Libye aussi, où subsistent tant de vestiges si divers et attachants depuis la préhistoire jusqu'à la période byzantine. Dans les temps tout récents, lorsque le comité des travaux scientifiques et historiques, qui assurait traditionnellement le suivi des rapports entre les chercheurs français et les archéologues d'Afrique du Nord, n'a plus souhaité avoir le privilège d'assumer ce rôle, notre compagnie a immédiatement contribué à la création de la SEMPAM, la Société d'études du Maghreb préhistorique antique et médiéval, et à coopérer avec celle-ci pour organiser, chaque année, des journées d'études nord-africaines. La seconde communication sera aussi d'actualité, c'est celle de notre confrère, le professeur Marc Fumaroli. Vous savez tous comment, au cours d'une très brillante carrière, jalonnée de publications érudites, consacrée aussi par le succès auprès de très larges audiences, tant au Collège de France qu'à l'étranger, Marc Fumaroli, élu en 1995 à l'Académie française, a tenu en janvier 1998 à rejoindre notre Académie d'inscriptions et belles-lettres, une compagnie où l'on travaille, pour reprendre ses propres termes, et où l'on défend par une action concrète les valeurs de l'humanisme. Vous vous rappelez l'intitulé de sa chaire au Collège de France, où il a été élu en 86, Rhétorique et société en Europe. En 77, il a participé à la fondation de la Société internationale pour l'histoire de la rhétorique, association qu'il a présidée en 84-85. Sa thèse de doctorat s'intitulait « L'âge de l'éloquence, rhétorique et res literaria, de la Renaissance au seuil de l'époque classique, Droz, 1980, réédité à Paris en 94. C'est donc en plein cœur de la Respublica Literarum, la République des Lettres, que s'est toujours situé Marc Fumaroli. Ses recherches et celles du groupe de travail qu'il a animé se sont portées en priorité sur les origines du Collège de France et l'étude des milieux culturels entre 1500 et 1560. Ça a été la matière d'un colloque à Paris, publié en 1998. Et puis ensuite, au-delà de l'espace, dans le temps, ses enquêtes se sont étendues. Quelles furent, durant les premières étapes du développement de la République du Lettre, les liens entre les hommes de science et de culture à Florence, à Venise, à Rome, à Naples, au long du Rhin, en France évidemment. Tout ceci donnait lieu à un important colloque à Paris en 2001, à une grosse publication datée de 2005, une recherche de collaboration internationale qui synthétise de passionnantes recherches. Tous ces efforts, ces concours sollicités de multiples côtés, nécessitent évidemment une organisation minutieuse. C'est pourquoi, en particulier avec l'aide de M. le ministre des Enseignements supérieurs, Marc Fumaroli a fondé un Institut européen d'histoire de la République des Lettres. De grandes figures dominent les pistes de recherche, depuis Erasme et Guillaume Bullet, jusqu'à Alexandre de Limbotte, pour ne citer que les plus illustres. À l'heure actuelle, de même qu'il avait tout naturellement fait porter l'effort majeur de ses recherches sur le Collège de France, la poursuite de ses enquêtes a amené Marc Fumaroli à étudier le rôle de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres dans le développement de cette République des Lettres. C'est ainsi que cet après-midi, tout à l'heure, il va souligner pour nous l'importance des années 1694, celle même où s'ouvre la série des registres journaux des délibérations et des assemblées de l'Académie royale des inscriptions, dont les volumes magnifiquement reliés se trouvent face à moi dans mon bureau et que j'espère que Sa Majesté pourra un jour revenir à l'Institut pour ouvrir dans notre compagnie. Entre 1694 et 1701, c'est la petite Académie, fondée en 1663 avec 4 membres de la Ligue française, qui était devenue en 1691 l'Académie des inscriptions, avant d'être de 1701 à 1716 l'Académie royale des médailles et inscriptions, et définitivement, en 1716, l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. En renouvelant, sire, mes différentes salutations à Votre Majesté, je cède la parole, je redonne la parole à Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Professeur Jacques Jouanna.
Sire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, le rôle du Président est de présenter devant un public choisi et attentif un bilan annuel de la vie de l'institution durant la période écoulée depuis la précédente rentrée solennelle. Il s'agit donc aujourd'hui de la période qui va de la fin de novembre 2005 à la fin de novembre 2006. Cette année académique, on le sait, ne coïncide pas avec le mandat du président, lequel correspond à l'année légale. Ce n'est donc pas une reddition de comptes analogue à celle des magistrats de l'Antiquité. Le président ne quitte pas sa charge, mais présente une rétrospective unissant l'action de deux présidents, ce qui est un signe de l'harmonie entre les présidents et surtout de la continuité de l'institution maintenue par-delà la succession des présidents par l'impulsion continue du secrétaire perpétuel que je qualifierai volontiers de démiurge, œuvrant sans cesse à la recréation de notre institution, laquelle perdure parce qu'elle se renouvelle. Le temps, disait Sophocle, dans sa longue et interminable course, fait voir ce qui restait dans l'ombre, tout comme il cache ce qui brillait au jour. Trois de nos confrères, qui brillaient au sein de notre académie, ont disparu à notre très grand regret. Le 28 janvier 2006, Jean-Yves Gouin, éminent helléniste, dont l'œuvre a marqué durant un demi-siècle l'histoire de l'hellénisme en France, nous a quittés. Par ses deux thèses sur l'histoire du texte de Pindare et sur les maîtres de la lyrique chorale, il inaugurait les deux grands domaines dans lesquels il s'est illustré, l'histoire des textes et la métrique. À l'université de Poitiers, ensuite de Paris, d'abord à Nanterre, puis à la Sorbonne, et aussi à l'École pratique des hautes études et enfin au Collège de France, il a formé plusieurs générations de spécialistes de la langue grecque, de l'histoire des textes et de l'édition. Son œuvre, dont les multiples facettes sont taillées au ciseau de l'exigence, comprend, en plus de ses ouvrages, une masse impressionnante d'articles consacrés à toutes les techniques nécessaires pour reconstruire l'histoire des textes, telles que la codicologie, la paléographie, la stématique, ou pour comprendre la création poétique, telle que la métrique ou la rythmologie. Succédant à Alphonse Daim, non seulement aux hautes études, mais aussi à la direction de la collection des universités de France, partie grecque, Jean-Yves Gouin a imprimé sa marque durant 35 ans, où sont parus 236 volumes, parmi lesquels on compte sa propre édition du poète lyrique Bacchylide. Son œuvre, internationalement apprécié, lui valut de nombreuses responsabilités et distinctions en France et à l'étranger. Un mois plus tard, un autre helléniste, qui brillait dans le domaine de l'archéologie, s'est éteint, Pierre Amandry, le doyen de notre académie. C'était un delphien, c'est-à-dire un spécialiste de l'archéologie du sanctuaire d'Apollon à Delphes. Ancien membre de l'École française d'Athènes, il en fut aussi le secrétaire général, puis le directeur, après avoir enseigné pendant deux décennies à l'Université de Strasbourg. Il a consacré sa thèse à la mantique de Delphes. Cette magistrale analyse, fondée sur l'épigraphie, rétablit dans ses justes limites le rôle de l'oracle et débarrasse la Pythie de son masque de furie hystérique. Quand on a la chance de visiter Delphes, avec un guide aussi autorisé que l'actuel directeur de l'école, on réalise à quel point Pierre Amandry est partout présent par ses découvertes ou les progrès dans la compréhension des monuments. Ayant lié son destin à la Grèce, il reçut en échange une vive reconnaissance, étant notamment citoyen d'honneur de Delphes. Avec Pierre Amandry, s'éteint une génération d'archéologues où l'érudition se conciliait avec un humanisme fait de courage, de générosité et de lucidité. Quelques mois plus tard, disparaissait un grand maître des études assyriologiques, Paul Garelli. Ayant eu dès sa jeunesse, pour avoir vécu à Istanbul, une vocation d'orientaliste, Paul Garelli entreprit dès 1946 l'étude de l'assyro-babylonien. Conscient que les documents, même les plus humbles, sont signifiants pour l'historien, il s'est attaché, sur les conseils de son maître René Labat, à l'étude des tablettes dites paléo-assyriennes laissées par des marchands assyriens en Cappadoce. Il fut ainsi le premier à réaliser une synthèse sur la présence assyrienne en Cappadoce au XIXe siècle avant notre ère, lors de la période la plus haute d'Assour. Il fut aussi le premier à faire entrer la syriologie dans l'université en devenant professeur à la Sorbonne, ce qui fut déterminant pour le renouveau de cette discipline en France. Il fut également directeur de recherche à l'École pratique des hautes études, puis professeur au Collège de France. Après sa thèse, Paul Garelli a élargi ses recherches à l'histoire assyrienne dans sa continuité jusqu'aux grandes heures de l'Empire néo-assyrien. Chef de file des assyriologues français, il fut, pour ainsi dire, l'ambassadeur de l'assyriologie française à l'étranger. Nous avons aussi à déplorer le décès de deux de nos associés étrangers, Eugène Hévig et Boris Marchak. Notre confrère médiéviste, Eugène Hévig, était le plus ancien de nos associés étrangers. De nationalité allemande, né à Bonn, après une thèse sur Denis le Chartreux de Reurement, figure de la spiritualité du XVe siècle de notre ère entre Rhin et Meuse, il s'attacha ensuite à l'étude d'une époque plus ancienne, devenant l'un des grands spécialistes de l'Europe franque. Il enseigna dans les universités de Mayence et de Bonn, mais il avait conservé depuis la guerre des liens étroits avec la France. Il fut le fondateur, à Paris, de l'Institut historique allemand en 1958. Boris Marchak, de nationalité russe, conservateur en chef au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, est décédé alors qu'il travaillait sur sa fouille de Penjikend au Tadjikistan. Il consacra toute sa vie à ce grand chantier qui a permis plus que tout autre de ressusciter la civilisation raffinée de la Sogdiane pré-islamique. C'est à son impulsion et à ses ouvrages que l'on doit le remarquable essor des études sogdiennes en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon et en Chine. Pour reprendre la formule de Sophocle, le temps a fait voir aussi ce qui restait dans l'ombre, c'est-à-dire les nouveaux savants qui ont été élus au sein de notre académie, à savoir 2 membres, 8 correspondants français et 8 correspondants étrangers. C'est en sa séance du 17 mars 2006 que l'Académie a élu comme membre Jean-Noël Robert, spécialiste de l'Extrême-Orient et surtout du Japon. Il a été élu au fauteuil d'André Caco. Diplômé de l'École nationale des langues orientales, ancien pensionnaire de la maison franco-japonaise de Tokyo, docteur de l'Université de Paris 7, Jean-Noël Robert est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il enseigne le bouddhisme japonais qui est au centre de son œuvre. Sa thèse de doctorat porte sur les doctrines de l'école japonaise Tendai au début du IXe siècle de notre ère. Sa parfaite connaissance de toutes les langues indispensables à toute étude comparative dans le vaste domaine du bouddhisme explique sa réputation internationale. Il est déjà bien inséré dans la vie de notre académie car il a repris l'une de nos publications, le dictionnaire encyclopédique du bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises, le projet Obogirin. Il aura pour tâche de poursuivre les études japonaises dans notre académie depuis la vive impulsion que leur avait donnée notre regretté confrère Bernard Franck, qui était son maître. Plus récemment, dans sa séance du 3 novembre 2006, l'Académie a élu comme membre Nicolas Grimal au fauteuil de Serge Lancel. Spécialiste d'égyptologie, Nicolas Grimal vient renforcer, comme Jean-Noël Robert, le secteur de l'orientalisme. D'une formation classique hors pair, il était à bonne école, son père, notre regretté confrère Pierre Grimal étant professeur de latin à la Sorbonne. Nicolas Grimal, agrégé des lettres classiques, trouva sa propre voie en s'initiant à l'égyptologie pendant ses études à Paris, puis en tant que membre de l'IFAO, Institut français d'archéologie orientale du Caire. Il s'imposa très vite par ses 2 thèses comme un spécialiste éminent des textes et des termes qui éclairent l'histoire. Philologue, Nicolas Grimal s'est également distingué sur le terrain, en étant le co-directeur du centre de Carnac. Professeur à la Sorbonne, puis directeur de l'IFAO, il est maintenant professeur au Collège de France. S'appuyant à la fois sur une formation classique et sur une exploitation des techniques informatiques les plus avancées, Nicolas Grimal est à l'image d'une académie qui se renouvelle tout en ne reniant pas son passé. Le choix des correspondants français est aussi l'une des préoccupations majeures de notre Académie, car ils doivent participer à nos travaux par leur communication, leur présentation d'ouvrages, leur présence dans les commissions et constituer un vivier pour l'avenir. la présentation trop rapide que je vais faire de chacun d'eux, en suivant l'ordre alphabétique, ne donnera qu'une image imparfaite des nouveaux talents. Dominique Briquel, professeur à la Sorbonne, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste de l'étruscologie, va reprendre la tradition de nos regrettés confrères Jacques Urgon et Raymond Bloch. François Dolbeau, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, célèbre par sa découverte de 26 sermons de saint Augustin, est un spécialiste du latin du Moyen-Âge. Jean Guilaine, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des civilisations de l'Europe au néolithique et à l'âge de bronze, apportera beaucoup à l'Académie où sa discipline n'est pas représentée. Pierre Laurence, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'épigramme, genre littéraire qu'il étudie durant 2000 ans d'histoire, transcende les cloisonnements universitaires français et contribue aux études du néo-latin à la Renaissance. Cécile Morisson, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire monétaire et économique, renouvelle sur des bases solides l'histoire du monde byzantin. Michel Pastoureau, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et à l'École des hautes études en sciences sociales, est un spécialiste novateur de l'héraldique et de l'histoire symbolique des sociétés médiévales et modernes. Laurent Pernoud, helléniste, professeur à l'Université de Strasbourg, dont la thèse sur la rhétorique de l'éloge mérite tous les éloges, et président de la Société internationale d'histoire de la rhétorique, fondée par nos confrères Marc Fumaroli et Alain Michel. Enfin, Franciscus Verhelen, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, où il enseigne l'histoire du taoïsme, est aussi directeur de l'École française d'Extrême-Orient. Grâce à ces 8 nouveaux correspondants, nous avons atteint le chiffre statutaire des 50 correspondants français. Par une procédure analogue, nous avons complété le nombre des correspondants étrangers en choisissant également 8 personnalités éminentes. Martín Almagro Gorbea, Espagne, professeur à l'Université de Madrid, spécialiste de la protohistoire européenne, notamment des relations entre les Celtes et les Ibères. Manfred Bietak, Autriche, professeur à l'Université de Vienne, l'un des maîtres de l'archéologie égyptienne en Nubie et dans le delta du Nil. Giovanni Colonna, Italie, professeur à l'Université de Rome, dont l'œuvre porte sur l'étruscologie et les peuples italiques. Michael Crawford, Royaume-Uni, professeur à University College de Londres, spécialiste de l'histoire monétaire, financière, économique et institutionnelle de la Rome antique. Michael Jones, Royaume-Uni, professeur émérite d'histoire médiévale de la France à l'Université de Nottingham, l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire médiévale de la Bretagne. Max Pfister, Allemagne, professeur émérite à l'Université de Saarbrück, où il enseignait la philologie romane, directeur du monumental Lessico Etymologico Italiano. Paul-Hubert Poirier, professeur à l'Université de Québec, spécialiste d'histoire du christianisme, co-directeur avec notre confrère Jean-Pierre Mahé du volume de la Pléiade, écrit gnostique, à paraître en 2007. Enfin, Francisco Rico, Espagne, professeur de littérature hispanique médiévale à l'Université de Barcelone, auteur d'une œuvre ample sur l'humanisme européen. Je viens de parler des hommes. Il me reste à parler des œuvres. La première mission de l'Académie, comme l'indique l'article 1 de ses statuts, est, je cite, « l'étude scientifique des monuments, des documents, des langues et des cultures, des civilisations de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'âge classique, ainsi que des civilisations non-européennes ». Les avancées de la science dans tous ces domaines se font dans les notes d'information brèves et dans les communications plus longues qui constituent la partie la plus passionnante de nos séances hebdomadaires. Nous avons eu 35 séances, dont 2 furent thématiques insérées dans des journées. L'une fut la journée d'études nord-africaines, dont on a déjà parlé, organisée par l'Académie en collaboration avec la SEMPAM, Société d'études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval. L'autre journée, intitulée « Science et médecine en Asie », fut un hommage à notre regretté confrère Jean Filioza, éminent spécialiste de la médecine indienne à l'occasion du centenaire de sa naissance. Dans les 33 séances ordinaires, nous avons entendu une cinquantaine d'interventions, à savoir 18 notes d'information et 33 communications. Ces chiffres, à la fois attendus et impressionnants, m'interdisent de rendre compte de tous les progrès qu'elles recèlent. La publication dans les comptes rendus de l'Académie, les CRAI, en donnera une image exacte. Le renvoi à l'écrit n'est pas une manière pour le président de se dispenser de quelques considérations orales, d'abord sur les auteurs, ensuite sur les interventions elles-mêmes. Je suis frappé de ce que la politique du secrétaire perpétuel, qui a consisté depuis plusieurs années à développer le rôle des correspondants français, porte ses fruits. 11 interventions sont dues à nos correspondants français, c'est-à-dire 1/5 sur le total. Une autre observation porte sur la part importante prise par nos associés correspondants étrangers. 7 associés et 5 correspondants étrangers sont intervenus. Un équilibre presque parfait s'établit ainsi entre les interventions des membres et des correspondants français d'une part et celles des associés correspondants étrangers d'autre part. C'est la preuve que l'Académie forme une grande famille internationale parfaitement équilibrée. La moitié des interventions ont donc été assurées par des orateurs appartenant à cette grande famille. L'autre moitié est due à des orateurs choisis et patronnés par un membre de l'Académie selon un usage traditionnel. Or, là encore, on retrouve la présence d'étrangers, ce qui confirme l'ouverture internationale de nos séances. Quant aux interventions, dont le président a pu méditer cette année le contenu, en disposant à l'avance des textes dans leur intégralité et non pas seulement sous forme de résumé. Elle se caractérise par une très haute qualité scientifique dans tous les grands domaines de recherche qui sont les nôtres, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, époque classique, et dans les diverses spécialités, archéologie, histoire, épigraphie, papyrologie, philologie, linguistique, littérature. Ce qui est manifeste, c'est le caractère récent des découvertes présentées, notamment dans le domaine de l'archéologie, et cela dans des chantiers situés dans des pays fort différents, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient. En Italie, les fouilles de tombes romaines de la nécropole de Porta Nocera. En Albanie, les fouilles de la cité grecque de Dyrrachium. En Grèce, les fouilles d'Argos. En Russie, les fouilles de Phanagorie. En Égypte, les fouilles de la mission française de Saqqara. Au Liban, les fouilles de Tel Arka et les fouilles anglaises de Sidon. En Syrie, les fouilles italiennes d'Ebla, présentées par le découvreur du site, notre associé étranger Paolo Mattier. Au Yémen, le port sud-arabique de Kani. Dans l'Asie centrale, la reprise en Afghanistan des fouilles de la DAFA, délégation archéologique française en Afghanistan, notamment à Bactre. Au Pakistan, les fouilles de Harappa par notre correspondant étranger Richard Meadow. Et enfin, en Extrême-Orient, les fouilles récentes d'Angkor Thom menées de façon systématique par l'École française d'Extrême-Orient. Ce chantier a été particulièrement à l'honneur sur proposition de notre Académie. Le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac a été attribué et remis solennellement le vendredi 10 novembre 2006 dans les salons de l'Hôtel de Crillon par le Prince Albert de Monaco à M. Pascal Royère et à son équipe pour la restauration du Bafouon, temple majeur du site d'Angkor. La présence de Sa Majesté Norodom Sihamoni, roi du Cambodge, à notre séance de rentrée solennelle, donne à cette entreprise une caution exceptionnelle. De la sorte, grâce à ces fouilles qui vont de l'Occident à l'Orient et que vous pouvez embrasser du regard, ont été mises au jour de nombreuses données utiles pour l'histoire de tous ces sites et de tous ces peuples. En particulier, l'histoire des civilisations de l'Asie centrale se précise avec des nouveautés sur la chronologie bactrienne post-hellénistique ou sur celle des premiers rois couchants. Ont été présentés aussi des textes nouveaux, par exemple les tablettes de bronze d'Argos, capitale pour la compréhension des institutions de cette cité grecque et, j'ajouterai, de la langue grecque, ou une nouvelle inscription grecque, dont des amis du Louvre, offrant l'intégralité de la lettre de l'empereur romain Hadrien à une cité grecque de Locride. Nous avons eu récemment aussi la présentation du papyrus copte, faisant ressurgir l'évangile de Judas par son principal déchiffreur et traducteur, notre collègue suisse Rodolphe Kasseur. Les avancées sont importantes aussi dans les études médiévales et dans les études linguistiques. Par exemple, pour le Moyen-Âge, on a appris l'achèvement du lexique latin médiéval aux Pays-Bas, et pour la linguistique, on a noté l'apparition d'un champ d'études nouveau pour notre académie dans le cadre des civilisations non-européennes, les écritures méso-américaines, mayas et aztèques, et je crois que c'est grâce à notre vice-président. La mission de l'académie n'est pas seulement de faire progresser la recherche, mais aussi de la promouvoir, comme cela est précisé dans l'article 2 de nos statuts. C'est dans ce domaine que les évolutions sont le plus perceptibles. L'Académie a su s'adapter aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Le signe en est la note d'information dense que notre secrétaire perpétuel a présentée le 13 janvier 2006 sur l'information à l'Académie, en présence de M. Gabriel de Broglie, chancelier de l'Institut de France, et de M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences morales et politiques, tous deux pionniers en matière d'audiovisuel public. Bien entendu, les publications de l'Académie, actuellement au nombre de 27 collections, restent la pièce maîtresse de cette valorisation dans la durée, car nous demeurons attachés à la défense du livre, même si le recours au format numérique s'impose pour des dossiers trop lourds. J'ai déjà mentionné les comptes rendus de notre Académie, mais il faut ajouter qu'un effort sans précédent a été fait pour réduire le délai de parution. Dans l'année académique 2005-2006, 6 fascicules ont paru. Le délai a donc été réduit, si vous calculez bien, de 6 mois en un an. Notre journal des savants, dirigé par nos confrères Jean-Marc Adet et Philippe Contamine, paraît avec une régularité exemplaire. C'est aussi avec une régularité sans faille que paraît chaque année, à la même date, la série annuelle des colloques de la Villa Kérylos. Le dernier volume donnant les actes du 16e colloque est intitulé « L'homme face aux calamités naturelles dans l'Antiquité et au Moyen-Âge ». Plusieurs séries se poursuivent régulièrement, comme les Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Pio, dont le tome 84 est paru en 2005, ou la carte archéologique de la Gaule, dont 4 nouveaux volumes sont parus, le Rhône, le Comminges, le Val d'Oise, et enfin Aix-en-Provence, auquel s'ajoute la réédition de la Charente. Toujours à propos de la Gaule, le recueil des sculptures sur pierre, dit « Le nouvel espérant Dieu », s'enrichit d'un deuxième tome sur Lyon dû à Maria Pia d'Arblade Audouin. Les collections relatives au Moyen-Âge ont donné lieu à 4 publications importantes. Dans les chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France, le recueil des actes de Philippe Auguste, volume 6, par Michel Nortier. Dans les documents relatifs à l'histoire des croisades, le tome 19 sur les certificats de pèlerinage d'époque ayoubide par Dominique et Jeannine Sourdel. Dans le recueil des historiens de la France, obituaire, le second volume du tome 8, le recueil des rouleaux des morts, année 1181-1399, par Jean Dufour. Hors série, ont paru les actes du colloque sur Froissart dans sa forge, très beau titre, organisé par notre confrère Michel Zinc, à la fois à l'Académie et au Collège de France. Enfin, dans la série Istria, ce comptoir grec de la mer Noire, le tome 7 sur les fouilles de la zone sacrée d'époque grecque dû à Petre Alexandrescu souligne les liens d'amitié unissant notre Académie à l'Académie roumaine de Bucarest. Mais à côté de cette valorisation traditionnelle, l'Académie a développé ces dernières années 2 innovations, le site Internet depuis octobre 2001 et un mois plus tard, la lettre d'information mensuelle. Pourquoi en parler dans le bilan de l'année académique 2005-2006 ? Parce que des progrès substantiels ont été accomplis depuis leur création. La lettre, d'abord présentée sur un seul feuillet recto verso, est devenue en 2002 un 4 pages. Et en 2006, une nouvelle ligne graphique a été adoptée. La dernière innovation est la parution de deux numéros thématiques hors série, l'un en septembre 2006 à l'occasion de la journée du patrimoine sur les épées des académiciens, un élément du patrimoine, l'autre en octobre sur les publications de l'Académie en vue des rendez-vous de l'histoire de Blois où l'Académie disposait d'un stand. L'audience de la lettre d'information est maintenant démultipliée par sa diffusion sur le site. Ce site a été lui-même progressivement enrichi, relié à d'autres sites et très bien référencé dans les moteurs de recherche, si bien que l'on tombe sur lui même sans le vouloir. Je vais vous faire une confidence. Cherchant naguère des renseignements pour préparer en tant que président quelques mots de commentaire sur une note d'information qui traitait du mot gaulois « souxtou », mot mystérieux pour moi, car exceptionnellement je n'avais pas reçu à temps le texte intégral. Je consultais l'oracle moderne, non plus delphique, mais internetique, en demandant « souxtou ». Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir comme première réponse la note d'information qu'il me fallait justement commenter. Décidément, les sites de l'Académie et de l'Institut sont trop bien référencés. La pitié moderne tourne parfois en rond, j'allais dire autour du pot, car cet énigmatique « souxtou » était en fait une marmite. Une telle politique d'ouverture sur le monde moderne n'est pas incompatible avec la vocation de conservatoire qu'a aussi notre Académie. Une note d'information de François de Calataille nous a livré des indications sur la partie numismatique du riche fonds Louis Robert, légué par Jeanne Robert, abrité par notre Académie, dont le responsable est Glenn Bowersock, associé étranger, assisté de plusieurs collaborateurs qui travaillent à l'inventaire et à la publication de ce fonds. Enfin, notre Académie, malgré son indépendance, est insérée dans l'interdépendance, pour reprendre un mot du chancelier de l'Institut, M. Gabriel de Broglie, qui nous a fait l'honneur de présenter dans une séance de notre Académie les articles de la nouvelle loi de l'enseignement supérieur, précisant de façon heureuse les statuts de l'Institut et des 5 académies qui le composent. Étant désormais sous la protection directe du président de la République et sous l'unique contrôle de la Cour des comptes, nos institutions jouissent, grâce à la prestigieuse vigilance de Pierre Messmer et de Gabriel de Broglie, d'une autonomie particulièrement favorable au développement de la science. Les excellentes relations entre notre Académie et l'Institut se marquent aussi par la participation de certains de nos membres à la gestion des fondations de l'Institut. Philippe Contamine préside la Fondation Thiers, si utile à nos chercheurs. Et Jean-Pierre Bablon, la Fondation de la Pays Royal de Chali, qui a connu lors des Journées du patrimoine un éclat exceptionnel, avec la réouverture en présence du ministre de la Culture de l'édifice public après la restauration des fresques qu'il est désormais possible d'attribuer au grand peintre italien Primatis, introducteur de la Renaissance italienne à la cour de François Ier. Au musée Jacquemart-André de Paris, dont la fondation est présidée également par Jean-Pierre Bablon, une exposition sur l'or des traces, trésor de la métallurgie antique découvert dans des tombes de Bulgarie, a été inaugurée le 13 octobre 2006 en présence du Premier ministre de Bulgarie. La superbe image que vous avez sous les yeux vous invite à vous y rendre. Les activités durant une année académique sont trop riches pour que le président puisse faire un rapport complet. Il lui faut faire des choix, même en s'en tenant à la partie visible. Il lui faut passer sous silence, cela va de soi, les comités secrets, serment académique oblige. Mais aussi, faute de temps, le travail régulier et patient d'une cinquantaine de commissions, soit pour remplir le rôle de l'Académie comme expert auprès des autorités publiques, notamment par ses avis sur certains grands établissements de recherche à l'étranger, l'École française d'Athènes, l'École de Rome ou l'École biblique de Jérusalem, soit pour assurer la gestion administrative, soit, les plus nombreuses, une trentaine pour l'attribution des prix. Mais tout ce travail méticuleux, qui ne serait pas possible sans la discrète efficacité du secrétaire général Hervé Danesi. entouré d'une équipe dévouée, veillant sur les publications, la communication et la conservation. Tout ce travail réalisé dans l'ombre, le temps vient aussi le mettre en pleine lumière. C'est le splendide palmarès que vous allez découvrir maintenant, qui, joint aux souvenirs de généreux donateurs, le talent des auteurs que l'Académie honore, sorte de feu d'artifice qui parachève ce bilan.
Bernard Potier, vice-président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, proclame maintenant le palmarès 2006 des prix de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et proclame également les nouveaux archivistes paléographes de l'année.
Jugement des concours. Prix Ambatielos. Ce prix a été décerné à M. Pierre Frelich pour son ouvrage intitulé « Les cités grecques et le contrôle des magistrats, 4e, 1er siècle avant Jésus-Christ ». Concours des Antiquités de la France. La première médaille a été attribuée à Mme Anne Rousselet-Pimon pour son ouvrage intitulé « Le chancelier et la loi au XVIe siècle, d'après l'œuvre d'Antoine Duprat, de Guillaume Poyet et de Michel de L'Hôpital ». La deuxième médaille a été attribuée à Mme Catherine Vincent pour son ouvrage intitulé « Fiat Lux, lumière et luminaire » dans la vie religieuse en Occident, du XIIIe siècle au début du XVIe siècle.
Canal Académie vous propose d'interrompre la proclamation du palmarès et de retrouver l'intégralité de cette proclamation sur le site internet de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
J'invite M. Azedine Béchaouche, associé étranger de l'Académie, à donner lecture de son discours intitulé « L'Académie des inscriptions et belles-lettres et la connaissance » du Maghreb antique.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, et si vous permettez, mes chers enfants et mes chers amis. Notre année finissant et l'annonce de l'an 9 2007 étant prochaine, il est, ce me semble, loisible à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avec l'obligeant assentiment de son bureau, de placer solennellement sa séance publique de rentrée sous le signe de la commémoration du centenaire de deux découvertes archéologiques majeures dont l'éclat est resté persistant. Faites l'une et l'autre en Tunisie, tour à tour le 3 juin 1906 et le 1er juin 1907, ces découvertes ont intéressé et continuent de concerner les historiens de l'Empire romain, les épigraphistes classiques, les historiens de l'art grec, tout de même que le public des musées. Le premier document, comme a bien voulu le rappeler Monsieur le secrétaire perpétuel, une longue inscription latine, eut vite fait de devenir célèbre depuis sa publication en 1906 dans les mélanges de l'École française de Rome par un historien qui n'avait pas encore 25 ans, Jérôme Carcopino. Communément appelé l'inscription d'Ain Djemala, le texte figure depuis longtemps aussi bien dans les recueils de droit romain et les manuels de juristes que dans la principale référence pour les épigraphistes, le Corpus Inscriptionum Latinarum, en l'occurrence le tome 8, qui est réservé aux inscriptions latines d'Afrique du Nord. Pour l'essentiel, la pierre retirée du lit d'Anoued, non loin d'Ain Tunga, l'antique Tignica en Tunisie du Nord-Ouest, comporte le texte d'une loi relative à la mise en culture par ordre de l'empereur Adrien entre 117 et 128 des terres en friche ou depuis 10 ans abandonnées. Cette nouvelle disposition législative, créée au profit de la catégorie des travailleurs de la terre, qu'ils fussent défricheurs, laboureurs ou planteurs dans le maquis, un droit de possession indéfiniment transmissible par hérédité ou par aliénation, sous la seule condition du versement d'une redevance en nature, céréales, olives ou raisins, aux propriétaires des fonds mis ou remis en culture. Les 117 pages de commentaires que consacra l'inscription d'Aïn Gemala, Jérôme Carcapuineau, furent débouter sa carrière sous les auspices les plus favorables, lui assurant un renom précoce et grandissant. Parlons du chef du canton d'Aïn Tunga, le cheikh, comme on dit toujours en arabe tunisien, Aïn Tunga, le site où il effectuait ses fouilles, et rappelons qu'il lui doit d'avoir repéré dans le lit de l'oued la pierre d'Aïn Gemala, Jérôme Carcapuineau écrit en 1968, dans son célèbre ouvrage « Souvenirs romains », le cheikh d'Aïn Tunga aura été vraiment un bienfaiteur de ma carrière. De fait, cette carrière a connu un déroulement hors pair. Normalien, agrégé d'histoire et de géographie, ancien membre de l'École française de Rome, il devait tour à tour diriger l'École française de Rome, l'École normale supérieure, avant de devenir titulaire de la chaire d'histoire ancienne à la Sorbonne, puis d'être élu membre de l'Académie des inscriptions et de belles-lettres dès 1930, et enfin de l'Académie française en 1955. Il fut un maître toujours attentif et sans cesse admiré pour de nombreuses promotions d'historiens, épigraphistes, archéologues, qu'il fit attacher en grande part à la connaissance du passé antique de l'Afrique du Nord. Je citerai en particulier ceux qui furent élus membres de notre académie à leur tour, les maîtres inoubliables que restent l'étruscologue et latiniste Jacques Orgon, l'épigraphiste et historien du christianisme antique Henri Irénée Maroux et l'historien du Bas-Empire romain William Seston, qui furent tous, permettez-moi de le dire, mes maîtres. Je rappellerai aussi, parmi les élèves de Jérôme Carcapuineau, les regrettés Louis Lesky et Gilbert-Charles Picard, tous deux correspondants de l'Institut, l'un en 1942 et l'autre en 1958. Le premier fut directeur des Antiquités de l'Algérie et le second, directeur des Antiquités et Arts de la Tunisie. Et c'est avec lui que j'ai commencé mes premiers pas pour l'archéologie tunisienne. Tout en assumant pendant longtemps la charge d'inspecteur général des Antiquités et Musées de l'Algérie, Jérôme Carcapuineau s'intéressait également au royaume chérifien et à son patrimoine d'art et d'histoire. Il consacra au Maroc antique un livre de synthèse publié dans sa seconde édition en 1948, livre non remplacé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jérôme Carcapuineau fit nommer correspondant dans notre académie en 1965 l'archéologue Maurice Euséna. Ce dernier, que nous avons hélas récemment perdu, est devenu académicien en 1995. Son nom restera en raison de son œuvre remarquable d'inspecteur puis de directeur du service des Antiquités du Maroc et aussi en raison de ses importantes découvertes d'épigraphie et d'archéologie, notamment la table de Banassa, mise au jour il y a un demi-siècle et qui est si essentielle pour comprendre le processus d'obtention par les Berbères de la citoyenneté romaine et de comprendre comment l'intégration pouvait aussi sauvegarder la diversité culturelle. De même, il reste une référence par ses recherches sur le limès de Tingitane, c'est-à-dire du côté du Maroc, la frontière sud-occidentale de l'Empire romain. J'en viens maintenant à l'autre découverte insigne que j'ai mentionnée. J'ai proposé d'anticiper de quelques mois seulement, avec votre autorisation, la célébration de son centenaire. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les trésors de Madia, l'admirable collection de sculptures, bronzes et marbres remontés de la mer par des scaphandriers au large de la côte orientale de la Tunisie, sous la direction d'Alfred Merlin, alors directeur des antiquités arts de la Tunisie. Cette découverte exceptionnelle d'archéologie sous-marine, la plus considérable que l'on ait jamais faite en Méditerranée, eut une très large répercussion, tant dans les milieux scientifiques qu'auprès du public. Dépassant donc le cercle des antiquaires, des archéologues, des épigraphistes, son audience s'est étendue au monde des arts. Le musée du Bardeau à Tunis, où l'ensemble des pièces de la collection recueillies et abritées à travers 5 salles et une grande galerie spécialement aménagée par Alfred Merlin, lui doit conséquemment une part de sa célébrité jusqu'à aujourd'hui. Voici en quels termes le refouilleur qu'était Alfred Merlin relate cette découverte. C'est à 4800 mètres au nord-est du phare qui termine le promontoire de Madia qu'en juin 1907, des scaphandriers, ramasseurs d'éponges, ont rencontré par 39 mètres de fond un gisement d'antiquité qu'ils prirent tout d'abord pour une ville submergée. Les recherches, aussitôt entreprises par la direction des antiquités et arts de la Tunisie, prouvèrent qu'il constituait la cargaison d'un bateau naufragé. Cette cargaison comprenait une soixantaine de colonnes en marbre blanc, des bases de colonnes, des morceaux de corniche, des grands chapiteaux, dont certains historiés, de grands cratères, des candélabres et surtout de très nombreuses œuvres d'art miraculeusement sauvées des eaux, nobles effigies, fines statuettes, reliefs de bronze ou de marbre, autres pièces décoratives. La cale du bateau était pour sa part remplie de débris de meubles ou bien d'ustensiles aux délicates appliques, remarquables par la variété des objets et leur grande qualité artistique, cette collection comprend de véritables chefs-d'œuvre de l'art grec d'époque hellénistique. C'est tout d'abord un groupe sculptural signé de Boétos de Calcédoine, un maître bronzier célèbre en son temps, c'est-à-dire dans la première moitié du second siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'une statue d'Agone, la personnification des victoires dans les concours gymniques. Il est figuré ici en adolescent nu et ailé. Il s'agit aussi d'un Hermès du dieu Dionysos, pourvu pour sa part d'une longue barbe. Ce sont ensuite deux pièces de marbre, deux pièces de bronze sans doute sculptées pour être placées en guise d'ornementation d'un trophée sur les flancs d'une proue de navire. On y reconnaît, plein de grâce et tout en élégance, le jeune dieu Dionysos et sa compagne Ariane. Comme on le constate, les trouvailles en mer au large de Madia sont d'une grande importance pour l'histoire de l'art antique. C'est pourquoi Alfred Merlin s'attacha à poursuivre ses fouilles sous-marines entre 1908 et 1913, et qu'il tint à informer de leurs résultats non seulement le monde savant, mais le public cultivé. En 1912, il était encore en Tunisie directeur des Antiquités, l'Académie des inscriptions et belles-lettres le nomma correspondant. Et c'est en 1928 qu'il fut élu académicien. Président de l'Académie en 1937 et de nouveau en 1948, ses confrères l'élirent la même année comme secrétaire perpétuel et il assuma vaillamment cette lourde charge jusqu'en octobre 1964, 5 mois avant son décès, le 16 mars 1965, dans sa 90e année. Quand il était rentré en France, il avait gardé ses attaches scientifiques et, permettez-moi de dire, puisque 2 années avant sa mort, j'ai eu le privilège d'être par lui reçu, ici même à l'Académie. Il m'a rappelé toute son amitié et son attachement à mon pays, la Tunisie. Il continua de publier tout au long de 4 décennies des études qui restent encore précieuses et sont pour l'essentiel consacrées à des analyses d'inscriptions et à des interprétations de pavements de mosaïques. Souvent, il associait à ses articles son ami et successeur à la tête du service des antiquités et arts de la Tunisie, Louis Poinceau, et ce dernier fut à son tour nommé correspondant de l'Académie en 1934, puis élu membre en 1962. À son décès en 1967, à l'âge de 88 ans, Louis Poinceau a laissé le souvenir d'un bienfaiteur de l'archéologie tunisienne. On lui doit en effet la résurrection d'une des villes antiques du Maghreb qui marque le visiteur d'une impression ineffaçable. Touga, maintenant Douga. L'état de conservation remarquable de ces monuments, les beautés dont ce site est rempli, on lui a valu récemment d'être inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. On doit également à Louis Poinceau une législation des antiquités qui fut en vigueur plus de 60 ans, puisque le décret Poinceau sur la protection des monuments et sites fut publié en 1921 et il ne fut remplacé qu'en 1988 par la loi tunisienne sur le patrimoine. Ce décret Poinceau, permit le classement de près d'un millier de monuments historiques et en disposant que l'État est le seul propriétaire des antiquités découvertes ou à découvrir, le décret renforça la lutte contre les fouilles clandestines et le trafic d'objets d'art et d'archéologie. Tels sont les faits. Ils sont nombreux et ils sont considérables. L'on ne saurait, il va sans dire, passer en revue en quelques instants la contribution apportée sous l'égide de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à la connaissance du Maghreb dans l'Antiquité. Elle couvre en effet plus d'un siècle et demi de travaux et elle a concerné l'ensemble des domaines de l'érudition. Pour les provinces africo-romaines, de la Libye jusqu'à l'actuel Maroc, il s'agissait d'abord de fixer leurs limites, tant dans l'espace que dans le temps, puis de décrire l'organisation administrative. Décrire ce territoire dont la superficie était considérable. Pour en venir à regarder à l'intérieur de chaque province la condition des collectivités publiques comme des individus. Dans ce cadre, il était important aussi d'étudier la vie économique et de déterminer comment s'organiser la production et les échanges, car par là pouvait se comprendre la prospérité que l'on constate en visitant l'ensemble de l'Afrique du Nord et l'aisance que traduisent à leur manière les progrès de l'urbanisation, l'essor monumental et la grande qualité de la parure urbaine comme l'ornementation des maisons par les pavements de mosaïques. On saisit dès lors l'ampleur de l'effort accompli par les savants et chercheurs français en Afrique du Nord qui n'ont rien négligé. Cet effort étant prodigieux et mon temps limité, je m'en tiendrai à un survol dont on voudra bien excuser l'aspect quelque peu schématique. Les explorations site par site et le souci de décrire avec précision la géographie historique nous ont valu des atlas archéologiques qui restent jusqu'à aujourd'hui les guides précieux des spécialistes sur le terrain pour l'ensemble de l'Afrique du Nord. Nous devons cette œuvre monumentale à 5 académiciens de grande mémoire. D'abord Stéphane Guitel pour l'Algérie, pour les cartes de 100 millième, et pour la Tunisie, les cartes au 50 millième, Ernest Bablon, René Cagna et Salomon Reynac. Cartes établies entre 1892 et 1913. Et d'autre part, pour les cartes au 100 millième, préparées entre 1922 et 1938, René Cagna et Alfred Merlin. Après la réalité du terrain, les savants français se sont occupés des sources épigraphiques et des documents archéologiques, fondement, comme vous le savez, de l'enquête historique. Ici encore, nous retrouvons nos grands anciens. René Cagnat d'abord, qui contribua au volume 8 du corpus des inscriptions, c'est-à-dire la somme des inscriptions africaines connues, publiée par l'Académie de Berlin. Ensuite, il s'associa à Alfred Merlin pour donner un volume, devenu depuis lors un usuel pour tous ceux qui s'occupent d'épigraphie nord-africaine, Les inscriptions latines d'Afrique, publié en 1923, qu'Alfred Merlin fera suivre en 1944 par les inscriptions latines de la Tunisie. Et les deux ouvrages, Inscriptions latines d'Afrique et Inscriptions latines de Tunisie, ont été publiés sous les auspices de notre Académie et grâce à des fonds de fondation. Pour sa part, l'inlassable Stefan Gzell publia en 1922 le tome 1 des inscriptions latines de l'Algérie et le dernier fascicule du tome 2, publié plus de 80 ans après le premier volume de Stefan Gzell, vient de paraître sous le patronage de l'Académie et en coopération étroite avec la direction du patrimoine culturel de la République algérienne, grâce à l'engagement personnel de notre secrétaire perpétuel pour la coopération entre la France et l'Algérie, et grâce aussi aux subsides fournis par notre Académie. Pour les documents archéologiques, l'Académie patronna, avec le ministère de l'Instruction publique de jadis, comme on disait, deux grandes entreprises. D'abord, la description de l'Afrique du Nord. C'est le titre de cette œuvre monumentale. On s'occupa tout naturellement, d'abord, des monuments. Aidé par Paul Gauclerc, correspondant de l'Académie, René Cagnat fit l'inventaire et l'analyse méthodique des temples païens de la Tunisie. Stefan Gzell étudia en deux volumes les monuments antiques de l'Algérie. Mais les monuments, c'est aussi le décor, et non pas seulement l'architecture. Donc, fut lancée au début du XXe siècle la seconde série importante dans cette collection, à savoir l'inventaire des mosaïques. L'inventaire des mosaïques de la Gaule et de l'Afrique, où la part réservée à l'Algérie et à la Tunisie était la plus importante. Et ces collections si riches sont présentées essentiellement par Paul Gauclerc et Alfred Merlin. Enfin, autre œuvre essentielle et de longue haleine, la série intitulée « Musées et collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie » qui fait apparaître les noms de Stefan Gzell, Paul Gauclerc, Alfred Merlin, vous voyez que nous retrouvons nos grands anciens, et même celui de Raymond Lantier, préhistorien, lequel, avant de rejoindre le musée de Saint-Germain-en-Laye, participa pendant des années aux côtés de Louis Poinceau aux fouilles de Carthage. Ces fouilles, on le sait, sont une tradition française séculaire depuis le père de Lattre, correspondant de l'Académie, jusqu'à la décision prise en 1973 par l'Académie sous l'impulsion de son secrétaire perpétuel. Je ne puis personnellement qu'en témoigner en étant heureux de cette décision, puisque, étant directeur à l'époque, j'ai pu lancer, sous l'égide de l'UNESCO, la grande campagne pour Carthage. La France, donc, participa à la campagne internationale et c'est notre confrère Serge Lancel qui fut le refouilleur de la colline de Birsa avec l'un de ses amis, mon cher collègue et aujourd'hui correspondant de notre Académie, Pierre Gros. Ils firent connaître un quartier de maisons puniques échappées par miracle à la destruction de la ville punique sous l'assaut des troupes romaines en 146 avant Jésus-Christ, comme vous le savez. Académicien depuis 2001, Serge Lancel, ce grand savant latiniste et archéologue, qui a tant fait non seulement pour Carthage, mais auparavant pour le site de Tipaza, en Algérie, vient d'être arraché à notre affection l'année dernière. Pour illustrer l'ampleur de l'œuvre scientifique qui, sous l'égide de l'Académie des inscriptions en belles-lettres ou bien à son initiative, a permis de mieux connaître l'histoire ancienne du Maghreb, je me suis d'emblée référé à cette découverte phare qu'est l'inscription d'Ain Djemala. Quant à ma sortie de l'École française de Rome en 1970, je fus nommé inspecteur général des antiquités de la Tunisie, je me suis donné la joie, dans la région d'Ain Tunga, de marcher sur les pas de cet illustre historien et d'être le premier, à la suite de Jérôme Carcopino, à reprendre les recherches archéologiques. Devenu 3 ans plus tard directeur général des antiquités de la Tunisie, je me suis attaché avec mes collègues et mes collaborateurs à poursuivre l'œuvre remarquable de nos grands anciens, les directeurs du service d'antiquités et arts de la Tunisie durant le premier XXe siècle, Paul Gauclerc, Alfred Merlin, Louis Poinceau et Gilbert Charles Picard. Ainsi que les jeunes membres de l'École française de Rome qui, appelés par les directeurs, furent périodiquement associés à leurs travaux. Familier pour ma part depuis 40 ans et plus des sites archéologiques de mon pays, je puis attester que ces savants, liés de façon directe ou partiellement à notre académie, ont tous porté haut le flambeau de la recherche. Ils ont contribué grandement à la conservation comme à la valorisation du patrimoine d'art, d'archéologie et d'histoire de la Tunisie. Assurément, il en a été de même en Algérie, grâce à 2 académiciens dont nous gardons encore la mémoire, Stéphane Gzel, élu en 1923, et Eugène Albertini, en 1938, tous deux successivement directeurs des antiquités et musées de l'Algérie, mais aussi à 2 valeureux correspondants de notre académie, Louis Lesky et Jean Lassus, qui ont été successivement directeurs des antiquités de l'Algérie après Albertini. De toute évidence, de cette évidence de la grande œuvre française en Algérie, j'ai pu me rendre compte sur le terrain en visitant à plusieurs reprises tant les villes d'or, comme aimait à les qualifier René Cagnat, mais aussi de nombreux sites de moyenne importance, moins prestigieux que Tipaza, Yol Kaisarea, Cherchel, Gemila, l'antique Kwikul, Lambesis, Lambes Tazult, Tebessa, l'antique Tevest, et Tamugadi, Timgad, mais aussi Hipporegius, Hippon la Royale, Annaba, la ville, l'évêché de Saint-Augustin, Madaouros, Mdaourouch, et Tubursikou, Numidarum, Khamissa, et j'en passe. L'éclat de l'œuvre accomplie motive mon admiration comme celle de tous les observateurs objectifs. Par la suite, ce que j'ai pu constater au Maroc a renforcé ce sentiment d'admiration légitime. Je pense particulièrement aux splendeurs de Volubilis, en arabe Walili, capitale occidentale du roi Juba II et plus tard le chef-lieu le plus important de la province romaine de Maurétanie Tingitane. Outre les travaux menés par le regretté Maurice Euséna, déjà mentionné, l'on doit rappeler l'importante contribution de notre cher confrère Robert Etienne à la connaissance de l'habitat et de l'urbanisme volubilitain. C'est le titre de sa thèse secondaire. Mais l'importance de Volubilis, la beauté de ce joyau de l'art antique au Maroc, ne doit pas nous faire négliger Salé, localisé à l'emplacement de la nécropole mérinide de Chella au Maroc, grâce aux recherches de l'académicien Charles Tissot, publié en 1878, dans les mémoires présentées par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Banassa non plus ne s'oublie pas, ni Tamusida, identifié par le même Tissot, est mieux connu depuis les fouilles de 1957-1959 auquel participa notre confrère et ancien président de l'Académie, M. Jean-Pierre Calu, du temps où il était membre de l'École française de Rome. Pour finir, je voudrais me permettre de m'inspirer d'une expression fameuse de l'écrivain latin Terence et affirmer « Rien de ce qui concerne l'histoire et l'archéologie de Maghreb n'est étranger à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. » Oui, sans conteste, l'Académie a bien mérité de cette contrée si proche de la France. J'ajouterai que l'engagement de l'Académie a précédé l'époque où s'établissait l'administration française en Afrique du Nord. En Tunisie, par exemple, où le régime du protectorat, comme vous le savez, ne devint officiel qu'en 1881. C'est déjà en 1860 que l'Académie patronna une mission d'exploration archéologique et épigraphique confiée à Victor Guérin, dont les frais furent pris en charge par Henri d'Albert, duc de Luynes, membre de l'Académie. En Libye, qui n'a jamais fait partie du domaine français, les explorations archéologiques françaises commencent dès le début du XIXe siècle. Le chevalier de Laporte visite Tripoli en 1806 et la Société asiatique lui publia ses recherches. Charles Clermont-Ganneau étudie les antiquités de tradition sémitique en tripolitaine. C'est le livre d'un grand ouvrage encore utile aujourd'hui qu'il publie en 1903. Secrétaire perpétuel de notre Académie, René Cagnat entreprend en 1925 un voyage d'études en Tripolitaine et il en publie les conclusions dans la revue de Rome « Rivista della Tripolitania ». Les visites effectuées par le grand helléniste et archéologue, mon maître François Chamou, l'un des doyens de notre Académie, et ses efforts persévérants entre 1973 et 1976, aboutissent à une programmation annuelle des travaux de la mission archéologique française en Cyrénaïque, que dirige depuis 1981 notre confrère, mon cher ami, M. André Laronde. Est-on parvenu à obtenir l'autorisation d'étendre le domaine de compétence de cette mission de la Cyrénaïque vers la Tripolitaine ? M. Laronde mène depuis deux décennies des fouilles fructueuses et régulières sur le site de la Grande Leptis, l'antique Leptis Mania, aujourd'hui Lebda, en Jamaria arabe libyenne. Du côté de l'Afrique du Nord francophone, le vif intérêt de l'Académie pour tout ce qui concerne l'archéologie et l'histoire ne s'est pas atténué avec la fin de la présence administrative française. Tout au contraire, l'Académie a maintenu son patronage et renforcé son soutien par-delà le temps des indépendances des trois pays africains, maghrébins. De jeunes chercheurs, notamment tunisiens, viennent périodiquement présenter devant l'Académie leurs découvertes. Leur rapport est souvent de portée notable pour l'histoire. Par exemple, il en a été ainsi pour ce Fethullah, actuellement Sbeitla, dont la résurrection est due à Alfred Merlin en 1907 et 8, ou bien à Medara Aydra, dont le premier fouilleur fut le célèbre historien de Rome André Pigagnol en 1912, André Pigagnol, membre de notre Académie, ou bien Douga, dont j'ai rappelé l'importance, pour laquelle j'ai rappelé l'importance de l'œuvre de Louis Poinceau. Enfin, Zama, la célèbre Zama, le lieu de la bataille si connue et bataille fatidique pour Carthage, c'est tout récemment qu'un jeune chercheur tunisien l'a localisé de façon définitive à Jama et ce mémoire a été publié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. De plus, l'appui sans faille que M. le secrétaire perpétuel de l'Académie, professeur Jean Leclan, a bien voulu accorder à une jeune société savante franco-maghrébine, la SEMPAM, la Société d'études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval, lui a permis de connaître une belle croissance, contribuant progressivement à raffermir les liens entre savants et chercheurs des deux rives de la Méditerranée occidentale. Cette SEMPAM a été lancée grâce à notre correspondant Jean Desanges, grâce à notre confrère si regretté Serge Lancel, elle est présidée maintenant par le correspondant de l'Académie, notre cher ami, M. François Desroches. Nous devons donc à la vérité de dire qu'aujourd'hui, dans le domaine privilégié de l'histoire ancienne et de l'archéologie, la coopération entre la France et le Maghreb, et pas seulement la Tunisie ou l'Algérie, mais l'ensemble du Maghreb, se porte bien et son avenir paraît tout à fait assuré. Grâce en soit rendue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il y a lieu de s'en réjouir sans retenue, mais aussi motivée qu'elle soit, la satisfaction invite à ne pas interrompre l'effort, comme elle nous incite à avoir la sagesse de travailler. Nous travaillerons.
Monsieur Marc Fumaroli de l'Académie française et membre de notre Académie a donné lecture de son discours intitulé « L'Académie des inscriptions et belles-lettres dans la République des lettres ».
Monsieur le Premier ministre, monsieur le chancelier, messieurs les secrétaires perpétuels, messieurs les ambassadeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je ne saurais mieux poser la question qu'il me revient de traiter qu'en partant plutôt du précis historique de notre Académie, publié en 1995 par son secrétaire perpétuel Jean Leclan. Il met en évidence le contraste entre la petite Académie, commission de quatre académiciens français créée en 1663 par Colbert et maintenue sous cette forme par Louvois, et l'Académie à part entière que le comte Louis II de Filippo de Pontchartrain, ministre de la Maison du Roi, mit en place à partir de 1694. Devenu chancelier de France en 1699, Pontchartrain put donner à cette Académie nouvelle ses statuts définitifs par l'ordonnance du 16 juillet 1701. Cette petite révolution était surtout l'œuvre de son neveu, l'abbé Jean-Paul Bignon, que Pontchartrain fit élire à l'Académie française en 1694 et à qui il délégua pratiquement ses pouvoirs sur les académies royales. Bignon est en fait le véritable fondateur de notre Académie. Charles Perrault, au titre de contrôleur des bâtiments du roi sous Colbert, qui en était lui-même le surintendant, fut le secrétaire de la petite Académie de 1663 à 1682, avant même d'être élu à l'Académie française. Le librettiste de Lully, Philippe Quinault, au titre d'académicien français, en fit partie. Louvois y fit entrer Racine et Boileau. Ni les uns ni les autres n'étaient des érudits au sens de la République des lettres. La commission à laquelle ils collaborèrent était un organe spécialisé de l'administration des bâtiments du roi qui fut particulièrement utile à Colbert et à son successeur Louvois pour veiller à la cohérence finale du décor intérieur du château de Versailles, notamment sa galerie des glaces et son salon de la guerre. Les gens de lettres qu'il a composés, portés à six par Louvois, avaient pour tâche de concevoir les figures symboliques et les mots des devises destinés aux monnaies et médailles royales, mais aussi les inscriptions destinées aux monuments et aux colophons des tableaux célébrant la gloire du roi. Leur œuvre d'inventeur de médailles, souvent révisée sous la pression des événements, naturellement, finit par composer une histoire métallique du roi, gravée et publiée en 1711. Ils étaient appelés à approuver les projets de dessin de Charles Lebrun, premier peintre du roi et directeur de son Académie de peinture et sculpture, pour les tapisseries royales tissées au gobelin, dont Lebrun était aussi directeur. Il devait encore rédiger la relation des fêtes et cérémonies marquantes de la cour, tâche où excellait André Félibien, amateur éminent et écrivain d'art. En somme, ils étaient les journalistes officiels du règne, chargé d'immortaliser au fur et à mesure ses triomphes et naturellement aussi de cacher ses erreurs et ses revers. En 1694, la petite académie change radicalement de personnel et de statut. Y entrent des érudits de première force, tels Eusèbe Renaudot, à la fois théologien, antiquaire, orientaliste et géographe. Les tâches assignées à la petite académie subsistent, elles subsisteront d'ailleurs au XVIIIe siècle, mais elles cessent de l'occuper exclusivement. Le règlement de juillet 1701 rend officielle la création d'une nouvelle académie royale, composée de 40 membres répartis en 4 classes hiérarchisées, les honoraires, les pensionnaires, les associés et les élèves. Susceptibles d'élire 12 correspondants français et étrangers. Le vaste champ d'études ouvert à cette nouvelle académie était l'antiquité classique et biblique dans ses textes et ses monuments, mais aussi les antiquités orientales et les antiquités nationales, à charge de faire connaître au public les travaux et les découvertes les plus marquants dans ces domaines au cours de séances publiques et par des recensions imprimées. Donc, d'une commission administrative, certes prestigieuse, tournée vers la célébration du règne actuel, du règne en cours, on était passé à une académie savante du même rang que les autres académies royales créées par Richelieu et par Colbert. Le domaine de recherche qui lui était assigné était jusqu'alors absent du Parnasse royal, où tour à tour avait trouvé place une académie de langue et lettres françaises, une autre de peinture, sculpture et gravure, une autre de science, une autre de musique et de danse, une autre enfin, en 1671, d'architecture. Ce domaine de recherche, officialisé en dernier lieu en 1701, c'était pourtant celui qu'avait inauguré la Renaissance italienne du XVe siècle, l'histoire et la mémoire des antiquités de l'Europe moderne. Pour l'essentiel, la nouvelle académie tournait le dos à l'actualité autre que scientifique, alors que la petite académie était entièrement consacrée à la célébration de l'actualité militaire, diplomatique et monumentale du règne. À la surprise que cause l'extraordinaire discontinuité entre la petite académie et la nouvelle académie des inscriptions, s'ajoute donc l'étonnement devant cette démarche en quelque sorte régressive de l'État royal qui avait commencé par officialiser les disciplines contemporaines, notamment les lettres françaises et la nouvelle science, et qui, après plus d'un demi-siècle, achevait l'édifice de ces académies en faisant place, au rebours de la chronologie, aux disciplines de la longue mémoire savante. Une première explication est fournie par le contexte de la querelle des anciens et des modernes. Cette querelle avait été inaugurée par Charles Perrault en 1687 par son poème « Le siècle de Louis le Grand », lu, non sans scandale, comme vous savez, par l'abbé de Lavaur, à la fin d'une séance solennelle de l'Académie française. Le patron de Perrault, Colbert, était mort en 1683. Lui-même, Perrault, avait été écarté l'année précédente de la petite académie. Cette disgrâce et celle de Charles Lebrun, la mort de Colbert, scandaient la fin d'une époque commencée 20 ans plus tôt. Dans son poème de 1687, Perrault, au lieu de se plaindre en mauvais courtisan, liait habilement l'apologie de l'administration des bâtiments et de la maison du roi depuis 1663 à une thèse, si j'ose dire, de philosophie de l'histoire, très flatteuse pour le roi, l'éclat des lettres, des arts et des sciences sous son règne attestait la supériorité du siècle actuel sur les autres grands siècles de l'Antiquité et de la Renaissance. La réaction fut immédiate et très vive. Elle divisa les gens de lettres, d'abord à Paris, puis dans toute l'Europe, rebondissant dès 1711 dans une ardente querelle d'Homère qui durera jusqu'à la Révolution, en fait. La création en France d'une académie royale d'antiquaires signifiait-elle une prise de position officielle en faveur des anciens ? On serait tenté de le penser, tant la faveur du roi pour Racine et Boileau, son choix de précepteurs très érudits Malézieux, Longepierre, Huet pour ses fils et petits-fils, le lancement par l'imprimerie royale de la collection de classiques Aduzum Delphini justifiait pleinement le qualificatif de Jean de Versailles donné aux anciens à Paris. Cependant, l'appui ostensible que les créateurs de l'Académie des inscriptions, Pontchartrain, d'abord ministre de la Maison du Roi, puis chancelier, et l'abbé Bignon, son neveu, avaient accordé au jeune chef de file des modernes, Fontenelle, élu grâce à eux à l'Académie française dès 1691, puis à l'Académie des sciences en 1697, prouve leur impartialité personnelle, conforme à la devise latine d'un tiers parti que l'on trouve par exemple en 1715 sur le portrait gravé du graveur Bernard Picard par Nattier, « Nec vetera aspernere, nec invideri odiernis ». Ils voulurent sans doute plaire au vieux roi qui déplorait les lacunes de sa propre éducation, mais aussi combler un vide dans l'architecture des académies royales, et cela au moment le plus propice, celui justement où la querelle des anciens et des modernes passionnait un vaste public pour des questions d'antiquariat qui jusqu'alors étaient restées, le plus souvent latin, le privilège un peu clandestin des érudits de la République des Lettres. Ce rôle public de temple de l'érudition, comme on le qualifia d'emblée, qui fut attribué à la nouvelle Académie, fut symbolisé par l'élection dans ses rangs du célèbre helléniste et latiniste André Dacier, héros, avec sa non moins savante épouse Anne, du Parti des Anciens. Déjà membre de l'Académie française, Dacier en devint secrétaire perpétuel en 1713, y contrecarrant l'influence du moderne Fontenelle et celle de son disciple Houdard de la Motte, élu en 1711. La création de notre Académie, dont ni Colbert ni Louvois ne s'étaient avisés, fut donc l'œuvre de deux fortes personnalités éclairées, le puissant chancelier Pontchartrain et son neveu Bignon, mieux à même que leurs prédécesseurs de comprendre que le système des académies royales était incomplet. Sous le ministériat de Richelieu et de Mazarin avaient surgi à Paris de discrètes compagnies privées de lettrés, d'érudits, de savants, d'artistes, qui attestaient par elles-mêmes la vocation de la capitale française à devenir non seulement une capitale, mais la capitale de la République européenne des lettres. La petite société privée de poètes et de critiques de langue française réunie autour de lui par Valentin Conrart avait été transformée par Richelieu en Académie française dès 1633-1635. Les deux principales sociétés de physiciens, de mathématiciens, de la nouvelle science, réunies en privé dans le Paris de Richelieu, l'une par le minime Marin Mersenne, l'autre par le magistrat Albert de Montmort, avaient été la souche mère de l'Académie des sciences, créée par Colbert en 1667. Or, la plus prestigieuse de ces compagnies privées parisiennes, le cabinet des deux frères Dupuis, était la seule à n'avoir pas connu le même sort. Pourquoi fallait-il attendre 1701 pour qu'une académie naisse dans son sillage, en apparence oubliée? En 1656, Jacques Dupuis suivit dans la tombe son frère mort en 1651. Ses deux cousins du président Jacques-Auguste de Thou, l'un des principaux politiques qui avait porté Henri IV au pouvoir, avait été les hôtes, après la mort du président en 1617, de l'Assemblée quotidienne d'érudits la plus célèbre de la République des Lettres européennes, d'abord dans la bibliothèque de l'Hôtel de Thou, rue des Poitevins, puis dans la bibliothèque du Roi, rue de la Harpe. La crème des historiens, philologues, archivistes, juristes, antiquaires, parisiens ou européens de passage, tels Hugo Grotius et Thomas Hobbes, s'y retrouvaient de 5 à 7 dans une discrétion quasi clandestine en terrain neutre. Les doctes jésuites, Fronton du Duc et Pierre Petot, y côtoyaient de redoutables philologues calvinistes, Claude Sommez et son ami Jean-Baptiste Lantin. les libertins érudits, secrètement détachés du christianisme et adeptes de sagesse païenne, y trouvaient une société indulgente ou complice. Richelieu n'y vit rien à reprendre. Le garde des trésors des Chartes, Théodore Godefroy, les historiographes royaux, André Duchesne, Henri et Adrien de Valois, eux de Mézeray, fréquentaient assidûment cette assemblée. Et Pierre Dupuis, lui-même haut fonctionnaire de l'État, garde de la Bibliothèque royale, et dont l'érudition historique et juridique était sans faille, fournit volontiers des arguments à la politique de Richelieu contre les empiétements de Rome ou à sa politique d'annexion de la Lorraine. On l'appelait le pape de Paris, tant son gallicanisme était connu et résolu. Mais en 1642, la tragédie de la décapitation à Lyon du jeune François-Auguste de Thou avec son ami Saint-Marc avait éclaté et indigné les cousins de la victime de Richelieu composèrent pendant la Fronde des études historiques sur les abus de pouvoir des favoris publiées posthumes en Hollande dès 1656. Aussi, le cadet des De Thou, continuateur des Dupuis, fut-il persona non grata auprès de Colbert. Pas question de construire une académie sur une officine qui avait osé défier la raison d'État. Le ministre de Louis XIV avait compris la leçon. La science historique était indispensable à l'État, mais elle pouvait se retourner contre lui. Disgraciant Mézeray, par exemple, qui avait dans son Histoire de France critiqué la politique fiscale des ancêtres du roi, Colbert mit les archivistes royaux, le fils de Théodore Godefroy, les bénédictins de Saint-Maur et de Saint-Germain-des-Prés, et puis son archiviste personnel, Étienne Baluse, au service exclusif de la raison d'État et dans le secret le mieux gardé. Le public devait se contenter de l'encens de l'histoire éloquente. La dédicace au chancelier Bouchera, en 1691, du traité des sirènes, gracieux mais très savant traité, de l'abbé Nicaise, témoigna jusqu'ici négligé sur, en quelque sorte, le sort du cabinet Dupuis après la mort des deux cousins et sur la pression qui s'exerçait dès lors sur le pouvoir royal en vue d'une création d'une académie dans la lignée de ce cabinet, eh bien, cette dédicace est très intéressante et très importante parce qu'elle montre que le cabinet, en fait, avait duré, mais en privé, pendant les premières décennies du règne de Louis XIV. On y lit ceci. Après la mort de Jacques Dupuis, Monsieur l'abbé Colbert, prieur de Sorbonne, qui fut fait son successeur comme bibliothécaire du roi, il habita dans la bibliothèque, mais il n'y entretint pas les assemblées. Monsieur de Thou, le dernier survivant de la famille, remit les assemblées chez lui et les continua assez longtemps, jusqu'à ce qu'ayant été logée dans une extrémité de la ville, où elle ne pouvait plus se tenir commodément, elles se firent dans la rue Serpente, chez Monsieur Salmon, garde des rôles des offices de France. Le gendre de M. Salmon, M. de Vivot, prit la relève, réunissant dans son cabinet, je cite, « des gens savants dans toutes sortes d'éruditions, dans toutes sortes de belles lettres ». Nicaise signale d'autres points de ralliement privés et réguliers autour de Gilles Ménage, de l'abbé d'Angeau, de l'orientaliste Barthélemy d'Herbelot, et aussi de M. de Ménard, président à Mortier et héritier de la bibliothèque des De Thou. On trouve donc là encore le fil conducteur de ces assemblées savantes. Il fait surtout grand cas des réunions érudites tous les mercredis, je cite, chez Monsieur le Premier Président au Grand Conseil, l'illustre et savant Monsieur Thierry Bignon. C'était l'oncle paternel de l'abbé Jean-Paul Bignon, dont la mère était une Pontchartrain. Les principes de la République des lettres, érudites, la cooptation, la coopération, la conversation et la correspondance restaient donc bien vivants et actifs sous le règne de Louis XIV, mais à l'écart de l'équipe d'experts exceptionnels et des fonds documentaires réunis par Colbert pour éclairer les décisions royales. L'éclat public créé par la querelle des anciens et des modernes remit en cause à la fois la discrétion classique longtemps observée par les doctes du cabinet Dupuis et le secret d'État jalousement gardé par Colbert. Soudain, un large public français et européen se passionnait pour l'histoire ancienne et moderne, y compris d'ailleurs des antiquités nationales. C'est à la solution délicate de ce problème nouveau qui annonçait la publicité du siècle des Lumières que s'attachèrent Pontchartrain et son neveu Bignon, élevés, comme nous l'avons vu, dans le sérail érudit et plus conscients que quiconque de la gravité pour l'État de l'enjeu des disciplines historiques. Nés de deux anciennes lignées de grandes robes savantes passées dans l'administration royale, lui-même formé au célèbre séminaire oratorien de Saint-Magloire, l'abbé Bignon avait pris le relais de son oncle paternel Thierry en réunissant à son tour chez lui, à jour fixe, une académie informelle dans la tradition des frères Dupuis, ouverte d'ailleurs aussi bien aux anciens qu'aux modernes. Un autre de ses oncles maternels, le chancelier Louis II, donc, successeur de Colbert et Louvois au ministère de la Maison du Roi, lui donna les moyens de doter la République des lettres érudites d'une académie royale française qui, sans l'échafaud de 1642 et le grave froissement qui s'était ensuivi entre la famille de Thou et l'État royal, aurait peut-être été créé et logé dans la cour carrée du Louvre, aux côtés des autres académies, dès le début du règne de Louis XIV. Cette création était à tous égards un geste habile qui, flattant d'un côté les goûts du vieux roi, garantissait l'État contre les dérives éventuelles de l'érudition historique, tout en donnant satisfaction à cette partie de l'opinion mondaine que les anciens avaient convertie aux curiosités antiquaires. L'abbé Bignon, cousin d'Albert de Montmort, autre raison pour lui d'être vraiment au cœur des affaires scientifiques parisiennes et européennes, avait donné beaucoup de gages aux modernes. Il avait soutenu avec son oncle, comme j'ai déjà dit, l'entrée de Fontenelle dans deux académies royales. Il avait donné en 1699 une impulsion nouvelle à l'Académie des sciences, dont il resta pendant 40 ans président ou vice-président, et en poursuivant sa correspondance pendant la guerre de succession d'Espagne avec les érudits calvinistes du refuge, ce qui montre évidemment sa liberté d'esprit. La Royal Society de Londres le comprit fort bien et elle l'élut membre étranger le 7 novembre 1734. Paré, si j'ose dire, sur sa gauche, du côté des modernes, il pouvait non seulement créer, mais animer, au titre de président, une académie d'érudits, lui rattachant en 1709 le journal des savants, dont il prit lui-même la direction et dont il fit un brillant rival du journal de Trévoux, publié par les jésuites, et des journaux publiés en Hollande qui prétendaient au monopole calviniste de la République des Lettres. C'est lui qui prit l'initiative d'envoyer l'abbé Sevin et l'abbé de Fourmont en mission de l'Académie à Constantinople, puis en Grèce, anticipant tout ce qu'on nous a compté aujourd'hui, d'où les académiciens rapportèrent une énorme moisson de manuscrits byzantins. Il ne se contenta donc pas d'être l'œil vigilant de l'État au sein de cette académie d'historiens et d'antiquaires, directeur et réformateur avisé de la librairie et de la censure entre 1699 et 1701, il introduisit la tradition, sous l'Ancien Régime, de faire entrer à l'académie les plus doctes parmi les 40 censeurs royaux. L'Académie prenait donc bien la suite du cabinet Dupuis, mais alors que cette discrète assemblée privée pratiquant ce qu'ils appelaient entre eux la libertas philosophandi, la liberté d'être philosophe, n'hésitait pas à faire entrer dans sa conversation encyclopédique la réflexion politique, ainsi que l'atteste la fréquentation dans ce cabinet de Thomas Hobbes, mais aussi la correspondance des Dupuis avec Péresque, qui évoque toutes sortes de précédents politiques de la situation présente, et puis leur réaction passionnée contre l'arbitraire de Richelieu lors de ce qu'on pourrait appeler le crime d'État de l'exécution de François-Auguste de Thou. Alors, le président et le créateur de la nouvelle Académie royale entendaient bien que ce genre de questions indiscrètes n'y soit pas traité. Major et longin quo reverentia. Cette autre lacune parut néanmoins sur le point d'être comblée sous la Régence, quand l'abbé Alary commença en 1720 à réunir tous les samedis, entre 5 et 8, dans l'entresol de l'hôtel du président Hainaut, place Vendôme, une vingtaine d'initiés, parmi lesquels le marquis d'Argenson, le marquis de Torcy, futur ou ancien ministre du roi, l'ancien titulaire anglais du Foreign Office, Bolingbroke, Montesquieu, l'abbé de Saint-Pierre et deux dames, Madame du Deffand, et vous ne serez pas surprise d'y voir figurer aussi la marquise d'Étiolles, future marquise de Pompadour, qui n'était pas si frivole que toute une historiographie un peu facile veut nous la présenter et nous en faire croire. En 1723, Alary fut élu à l'Académie française et tout laissait croire à la création, à plus ou moins long terme, d'une Académie des sciences politiques. Un des premiers soins du cardinal Fleury, devenu Premier ministre, fut d'interdire ces réunions en 1731 et on n'en parla plus jusqu'à la monarchie de Juillet. Pour autant, l'abbé Bignon entendait que l'Académie fut composée de personnalités éminentes, qu'elle travailla sérieusement et qu'elle satisfie la curiosité du public pour les antiquités. Il favorisa l'entrée prestigieuse aux inscriptions, comme honoraire, de son jeune cousin, le marquis Filippo de Maurepas, ministre de la Marine et de la Maison du Roi dans la succession du chancelier Louis II, et d'autre part, l'ami intime de Maurepas, un grand seigneur féru d'Anticaria, le comte de Caylus. En se faisant nommer lui-même en 1718 grand maître de la bibliothèque, en succession de l'abbé de Louvois, Bignon avait resserré les liens, toujours dans la tradition des Dupuis, entre l'élite érudite, la bibliothèque du roi, le collège royal, dont il fit entrer plusieurs professeurs, dont l'abbé Salier, grand hébraïsant, à l'Académie, la nouvelle Académie des inscriptions. Il relogea superbement, comme vous le savez tous, la bibliothèque royale au palais Mazarin, rue de Richelieu. Il créa ses quatre départements, il en rendit la consultation publique et il assura la régularité du dépôt légal avant de lui léguer sa propre et vaste bibliothèque. Cet esprit encyclopédique était d'abord un grand serviteur de l'État et ce prêtre, entré dans les ordres en 1691, réputé de surcroît pour ses talents d'orateur sacré, était d'abord un libertin. Il menait dans ses loisirs une vie agréable de débauche dans le somptueux château de l'île Belle que sa fortune personnelle et ses nombreux bénéfices ecclésiastiques lui avaient permis d'élever sur une île de la Seine devant Melun. Devant Melun, oui. La République des Lettres, donc européenne, italienne d'abord, puis européenne très vite ensuite, dont le nom apparaît pour la première fois dans une correspondance entre humanistes italiens en 1417, était vite devenu un réseau européen de sociabilité et de coopération privée entre savants, la matière grise, en quelque sorte, de la mémoire critique et inventive de l'Europe. Le cabinet Dupuis, pendant près d'un demi-siècle, en avait transporté le centre nerveux à Paris. Après une relative éclipse, nous l'avons vu toute relative, d'un autre demi-siècle, l'abbé Bignon réussit à transporter ce centre nerveux à l'intérieur même du cerveau de l'État royal. Après sa retraite en 1741 et la disgrâce maladroite de Maurepas en 1748, l'essor progressif du parti philosophique fut parallèle au déclin de la nouvelle et habile politique monarchique de l'historiographie qu'avait scellé la création 1701 de l'Académie royale des inscriptions. Heureusement, poursuivant sur sa lancée, préservé des remous de l'actualité, ce qui est un des avantages de l'ancien régime, notre Académie, jusqu'à la Révolution, ne souffrit nullement de cette défaillance évidente de la politique officielle. Le nom de l'infatigable Caylus et de son jeune ami, l'helléniste Barthélemy, lié à l'essor du retour à l'antique du second tiers du XVIIIe siècle, le nom également du médiéviste Lacurne de Sainte-Palaye, le nom du grand sanskritiste Anquetil du Perron suffirait à l'attester. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre sur Canal Académie la retransmission de la séance publique annuelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est déroulée sous la coupole le vendredi 24 novembre 2006, présidée cette année par Jacques Choinat.